Merci et rendez-vous bien sûr d'ici une heure. Alors on va se balader un peu partout, même changer d'hémisphère à un moment puisqu'on visitera le Brésil et aussi se rapprocher de notre époque. Mais avant tout ça, on visite la Tour Eiffel du genre. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. Good vibrations. She's giving me the excitations. Good Vibrations, le sommet de la carrière des Beach Boys, leur plus grand succès international à l'automne 1966. Un enregistrement qui marque d'ailleurs une révolution, quelques mois avant celle de Strawberry Fields Forever des Beatles. De fait, il y a un avant et un après Good Vibrations, un peu comme en peinture, il y a un avant et un après Les Demoiselles d'Avignon de Picasso, ou au cinéma, un avant et un après À bout de souffle de Godard. Alors, en deux mots, qui étaient les Beach Boys? Eh bien, c'était une sorte de boy band band de Los Angeles, connu jusque-là pour ses chansons joyeuses et entraînantes, des hymnes au surf, aux voitures de sport, aux filles en bikini. Alors, dans un premier temps, l'arrivée des Beatles en 64 les avait considérablement démodés. Imaginez l'effet de la vague contestataire et hippie, les cheveux longs, tout ça, qui déferle sur la côte ouest, l'expérimentation de nouvelles drogues dites psychédéliques, la recherche de nouvelles formes de spiritualité. Alors, vous parlez des Beach Boys dans ce contexte-là, dans les milieux de ce qu'on commence à appeler la contre-culture, mais tout le monde rigole. Et puis, boum, ils enregistrent un album qui s'appelle Pet Sounds, et qui, à sa sortie au printemps 66, fait l'admiration de Paul McCartney des Beatles et de Pete Townshend des Who. Et quelques mois plus tard, une chanson, Good Vibrations, qui révolutionne l'idée même de ce qu'est un tube. Une chanson qui dure près de 4 minutes, composée et assemblée en fragments. Alors, pour réaliser cet enregistrement extrêmement sophistiqué pour l'époque, il a fallu pas moins de 17 séances en studio, réparties sur 6 semaines. La participation d'une vingtaine de musiciens parmi les meilleurs de Los Angeles pour un coût d'environ 50 000 $. Une somme mais colossale en ce temps-là. Et tout ça au service de la vision musicale de qui, d'un gamin d'à peine 24 ans, le compositeur du groupe Brian Wilson. Alors au début, il avait un thème au piano, hein, ça allait pas plus loin, et une vague idée, une espèce de rhythm and blues bizarre, inspirée par l'idée que lui avait transmise sa mère quand il était enfant, c'est que les chiens captaient certaines vibrations chez les gens. Alors si elles étaient mauvaises, ils aboyaient, et si elles étaient bonnes, je sais pas, ils les léchaient, j'imagine. Enfin, en tout cas, voilà, Good Vibrations, ça n'a rien à voir avec les bonnes vibrations sympathiques hippies, c'était les chiens. Bon, alors, ça se composait de 6 brèves sections musicales différentes. Il y a des changements de tonalité, de rythme, on peut pas les prévoir. Donc en fait, c'est une petite symphonie de poche assemblée par un procédé de collage qui est tout à fait inhabituel dans la musique populaire. Hein, on entend d'abord un thème de rhythm and blues, du chant polyphonique et même de l'électronique. Et oui, parce que les espèces de couinements que vous entendez à la fin sont dues à un instrument très singulier, le thérémine. Le thérémine, c'est le tout premier instrument de l'histoire de la musique électronique. Il porte le nom de son inventeur, un ingénieur russe, Léon Thérémine, qui l'a inventé en 1919, soit 9 ans avant les ondes Martenot. Le principe, c'est celui d'un petit boîtier électronique équipé de 2 antennes, ce qui crée un champ électromagnétique. Alors on produit des sons et on les module en bougeant les mains à l'intérieur de ce champ à légère distance de l'instrument, donc sans le toucher. Alors en l'occurrence, dans Good Vibrations, il s'agit d'une variante de l'instrument. C'est l'électro-thérémine qui avait été fabriqué par le tromboniste américain Paul Tanner, c'est-à-dire c'est lui-même qui en joue à la séance, et il avait eu l'idée d'y adjoindre un générateur d'ondes sinusoïdales. Me demandez pas ce que c'est, je répète sans comprendre. Bon, en tout cas, grâce au succès mondial de Good Vibrations, il y a une porte qui s'est ouverte. Elle a permis à toute une génération de jeunes, souvent très jeunes musiciens, d'utiliser le studio d'enregistrement pour ainsi dire comme un lieu d'invention sonore. Il est difficile de trouver d'autres sommets d'invention et d'inspiration comparables à Good Vibrations, mais enfin bon, bref, on va rester un petit moment grâce aux Beach Boys en Californie. Après tout, c'est là que tout a commencé.
Wichita, talk him around, warren nickel, hey, no, Wichita, talk him around, warren nickel, hey, no, what a spirit feeling springing round my head, makes me feel glad that I'm not dead. Wichita, talk him around, Warren Nickel, hey, 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 no, what? Wichita, talking around, Warren Nickel, hey, 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 no, what? Wichita, talking around, Warren Nickel, hey, 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 no, what?
exactly as it seems. Heathen, able to admit, saw his thoughts drift into unimportant schemes.
C'est le nom de la chanson, c'était le groupe Moby Grape en 1968, un des plus attachants nés à San Francisco dans cette période psychédélique qui avait vu l'émergence des prestigieux Jefferson Airplane ou Grateful Dead. Mais Moby Grape a eu beaucoup moins de chance que les formations que j'ai citées et pourtant... Ce groupe avait plein d'atouts. Pas moins de 3 chanteurs, guitaristes et compositeurs qui ensemble maîtrisaient à peu près tous les styles, folk, blues, country, avec une petite touche de jazz aussi. Alors ils avaient le soutien d'une jeune Janis Joplin et premier coup de malchance, leur premier album, lancé par une campagne promotionnelle délirante qui les voit comparer aux Beatles, est un fiasco total. Et c'est pas fini, le soir de leur concert de lancement, 3 d'entre eux sont arrêtés par la police pour détournement de mineurs et possession de drogue. Qu'est-ce qui se passe? On les met en prison, ils sont libérés sous caution. Et après, nouveau manque de bol, ils se produisent en juin 67 au célèbre festival de Monterey. Mais hélas, ils sont obligés de jouer quand le public est à peine installé, en train d'arriver. Donc personne ne les entend. C'est pas fini. Un des 3, Skip Spence, force un peu trop sur le LSD. Qu'est-ce qui se passe? Il se fait interner en 68 dans un hôpital psychiatrique à New York, où le groupe enregistre son second album. Il absorbe là des quantités de trips de LSD que lui passe une fille désaxée qu'il a rencontré dans la rue. Alors là, pour le coup, very bad trip, parce qu'un jour, il débarque à l'hôtel où loge son camarade Jerry Miller. Il se saisit d'une hache qui est disposée là en cas d'incendie et il se met à attaquer la porte avec. Et puis, toujours armé, il déclare qu'il va se rendre au studio d'enregistrement. Et alors, heureusement, on le maîtrise à temps. Des infirmiers lui passent une camisole de force et on le conduit d'air chef dans un hôpital psychiatrique. Et en ce temps-là, c'était des traitements de choc. Alors, le malheureux en est sorti encore plus dingue qu'il y était entré. En tout cas, la chanson de Moby Grape, on a entendu à quelque chose de magique, assez proche par son style symphonique entre soul et pop baroque du groupe Love. Elle est due dû au troisième chanteur et guitariste du groupe, l'excellent Peter Lewis. Alors juste avant, on était déjà à San Francisco avec le groupe Harper's Bazaar. Toujours en 68, on l'a entendu dans Wichita. C'est une chanson dont l'origine est assez intéressante puisque son auteur, c'est un saxophoniste de jazz qui s'appelle, je crois qu'il est mort, Jim Pepper. C'était un natif de l'état de l'Oregon qu'il avait entendu pendant une cérémonie religieuse dans un temple de l'église des Amérindiens. Il était lui-même amérindien d'origine. Une cérémonie où l'on prenait du peyote. Alors vous savez peut-être pas, mais le peyote, c'est un petit cactus dans lequel on trouve un puissant psychotrope, la mescaline. Alors Wichita Ito, c'est un thème qui a fait le tour du monde. Il a été repris par plein de musiciens dans des tas de styles différents. Chez nous, on connaît la reprise qu'en a faite le chanteur québécois Robert Charlebois en 73. Et celle de Harper's Bazaar est sans doute la plus belle, la plus poétique, en tout cas avec ce petit motif répétitif, obsédant, ces nappes de violon, cette flûte qui a l'air de planer comme ça, comme un oiseau étrange. Et puis il y a cette sonnette de bicyclette oppressante qui parcourt ce chant tribal. Et on a l'impression comme ça, à mesure qu'il se répète, il se mène dans la brume. Alors c'est dommage parce que Harper's Bazaar est un groupe peu connu en France, il méritait de l'être davantage. Voilà. Alors je vous parlais du Brésil, eh bien nous y voilà arrivés. On va écouter à présent celui qui a été le premier à fusionner la bossa nova et les étranges expériences de la pop psychédélique de l'époque. Caetano Veloso, un musicien révolutionnaire arrivé de Bahia à Rio de Janeiro, a été comparé à ses débuts à Bob Dylan, et il a eu en 67 des débuts très psychédéliques, très inspirés par certaines des choses qu'on vient d'entendre. Vous allez en juger par vous-même dans Alegria, Alegria. Ensuite, vous l'entendrez d'autres Brésiliens assez bizarres, ceux-là encore plus étranges, les bien nommés Os Mutantes, les mutants, dans la reprise extrêmement baroque d'une chanson qu'avait créée en 63 une toute jeune François Hardy, le premier bonheur du jour, mais d'abord Caetano Veloso.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos, eu vou. Por que não? Por que não? Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu vou, eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo.
Very Good Trip sur France Inter.
Now my song is over.
Pour saluer le chant, on devrait d'ailleurs dire les chants de Fredo Viola. C'est un musicien actuel, comme quoi je ne passe pas que des vieilleries. Il s'est fait connaître il y a 7 ans, notamment grâce à cette chanson The Turn, également le titre de son premier album paru donc en 2008. Alors même s'il est né à Londres, Fredo Viola a passé sa jeunesse à Los Angeles, où il a étudié le piano et le violon, et ça s'entend, il a participé à une chorale. Alors ce qui est intéressant dans son cas, c'est que d'une certaine façon, sa décision de se lancer dans la musique est née d'une déception, puisqu'il voulait faire du cinéma. Il s'est inscrit pour ça dans une prestigieuse école du spectacle à New York, la Tisch School of the Arts, la même, entre parenthèses, qu'a fréquenté jadis Woody Allen, mais aussi plus récemment la future Lady Gaga, eh oui. Mais cet apprentissage ne l'a pas mené là où il souhaitait, puisqu'il s'est retrouvé à tourner des spots de publicité, ce qui était sans doute pas son rêve dans la vie. Alors il a trouvé refuge dans la musique d'une façon assez singulière, puisqu'il s'est mis à enregistrer tout seul chez lui, il a perfectionné une technique avec des logiciels perfectionnés en créant comme ça une chorale à lui tout seul. Il accompagne d'ailleurs ses chansons de petits films qu'il réalise lui-même. Alors bien sûr, dans ce qu'il fait, il y a du contrepoint à la Jean-Sébastien Bach, mais aussi des réminiscences de pop électronique des années 80 et bien sûr de pop baroque et psychédélique, sinon je l'aurais pas passé. Voilà. Alors juste avant, vous êtes peut-être demandé, mais quelle était cette chanson interprétée en français avec une pointe d'accent dans cet étonnant arrangement vocal à la Michel Legrand ? Eh bien, c'était la chanteuse brésilienne de São Paulo, Rita Lee, dans le groupe Os Mutantes, qui, avec Gilberto Gil et Caetano Veloso, avait fait scandale dans le Brésil de 1968. Alors, pourquoi scandale ? Eh bien, alors, le Brésil était régi, certains le savent, par une dictature militaire très nationaliste, et les jeunes musiciens qui avaient introduit au Festival de Musique Populaire Brésilienne des guitares électriques étaient regardés comme des déviants, soumis à l'influence délétère de l'impérialisme américain et de ce rock psychédélique drogué et décadent, corrupteur de la jeunesse. Et entre parenthèses, c'était exactement le même discours que les jeunes entendaient alors dans les pays communistes totalitaires d'Europe de l'Est. Alors, je vous ai parlé donc de groupes plus récents de l'histoire du rock inscrits dans ce courant. Et bien dans les années 80, il y a eu eux, le groupe anglais XTC, pas très méconnu du grand public, mais vénéré par beaucoup d'amateurs. Ils sont arrivés à créer une combinaison assez miraculeuse qui n'appartenait qu'à eux, de pop psychédélique, jazz, bossa brésilienne, avec cette ambiance un peu flottante, comme aquatique, qu'on trouve aussi dans la musique d'un autre créateur anglais très singulier, Robert Wyatt. On écoute donc XTC en 1989 dans Chalk Hills and Children, Colline de craie et enfants.
Strange land, it's a sword sequence, showbiz moon. I am floating over strange land, and it's stranger still, there's no balloon. But I'm getting
Very Good Trip, Mishka Assayas, sur France Inter.
I walk alone, alone at night. great is the fun to take in my mind.
Être honnête, je connais presque rien de ce groupe anglais à part son nom, Harmony Grass, et le titre de cette chanson, enregistrée en 69, I've Seen to Dream. C'est en tout cas des années-lumière dans le côté baroque et bucolique du blues rock et des explorations de la musique dite progressive, c'est-à-dire futuriste, qui était alors en pleine explosion à Londres. Les harmonies vocales, les percussions comme ça un peu moites et tropicales, les sonorités, les progressions d'accords, tout ça évoque les Beach Boys psychédéliques. C'est un cas donc assez étonnant. Alors, je vous avais dit qu'on voyagerait pas mal aujourd'hui. Eh bien, nous voici en Scandinavie. Je vous propose de découvrir deux exemples tout à fait divertissants de pop baroque récente, rétro et vintage, aussi flamboyante qu'infantile, faut l'avouer, mais en tout cas pleine de drôlerie et d'imagination. On va d'abord écouter Pepe Deluxe, et oui, il s'appelle comme ça, c'est un groupe venu de Finlande, qui est né il y a une quinzaine d'années à la faveur du courant hip-hop. Ils ont réalisé pas mal de remixes pour des gens assez connus, comme Tom Jones notamment. Ils ont publié il y a 3 ans un album très original, Queen of the Wave, sous-titré, je traduis, un opéra pop ésotérique en 3 parties. Alors c'est un mélange de choses qui en toute logique ne devraient pas cohabiter: rock et pop psychédélique rétro, hip-hop, chansons de musical, soul des années 60, vieille musique de film, électromoderne. Enfin, à décrire, c'est n'importe quoi, à écouter peut-être aussi un peu aussi. En tout cas, c'est très joyeux et musicalement, je trouve, très inspiré. On écoute Temple of Unfed Fire, Pepe Deluxe. Quand des musiciens de conservatoire venus du Danemark décident de mélanger leur science musicale avec tout ce qu'ils ont aimé quand ils étaient enfants, sans oublier la discothèque de leurs parents, voilà ce que ça peut donner. Helplessly Young, une chanson d'un groupe qui, hélas, n'existe plus. Oh no, oh no. Alors, ça s'écrit comme oh no, oh non, puis oh no, comme Yoko Ono. Voilà, oh no, oh no. C'était extrait de leur troisième album publié en 2010, qui s'appelle Eggs. On peut entendre là-dedans de l'électro, de la pop scandinave à la ABBA, bien sûr, mais aussi de la new wave et bien sûr des bizarres pop psychédélique, sinon je vous l'aurais pas passé, évidemment. Bon, alors maintenant, respirez un grand coup, parce que vous allez écouter Nirvana. Non, je blague pas.
I look through the window and try to pretend the train's in the station to stay. The train in the station, but I've got to go. Which are the words I can say?
Très bien, c'était le groupe Nirvana. Et oui, vous avez bien entendu Nirvana. Bon, alors vous le saviez peut-être pas, mais à la fin des années 60, il y avait à Londres un duo dans un style entre folk et pop baroque qui s'appelait en effet Nirvana. C'était un duo qui unissait un Irlandais et un Grec venu d'Athènes qui était passé par Paris pour y étudier le droit. Alors ils ont enregistré plusieurs albums qui font, comme on dit, l'objet d'un culte, en particulier celui dont j'ai extrait cette chanson, Très bien, en français dans le texte. L'album sorti en 69 s'appelle To Mark Three, et il comporte, d'ailleurs c'est intéressant à noter, des orchestrations réglées par Tony Visconti, un futur collaborateur de David Bowie. Pour la petite histoire, sachez que les deux membres de ce premier Nirvana, Pat Campbell-Lyons et Alex Spiropoulos, ont fait une vingtaine d'années plus tard un procès au groupe de Kurt Cobain. Et oui, ils sont arrivés à obtenir, il y a de ça 25 ans environ je crois, la somme de $50,000. Et ça s'est même si bien réglé que le premier Nirvana a enregistré une chanson du second Nirvana, en l'occurrence Lithium. Alors je sais que ça existe, je suis pas arrivé à la trouver, mais enfin voilà, si vous êtes meilleur que moi, vous la trouverez. Alors on va quitter ce voyage dans la pop baroque avec une ultime étape, un musicien que, je l'avoue, j'ai mis du temps à apprécier à sa juste mesure, à sa juste valeur. Pour moi, c'est certainement l'auteur et interprète de chansons le plus sensible, attachant et doué des années 90, malheureusement disparu trop tôt, l'américain Elliott Smith, qui avait d'ailleurs étrangement fait ses débuts à la faveur du courant grunge. Ce sont les hasards de l'histoire. Il avait étudié le piano piano classique et il respirait la musique. À mon sens, c'est l'un des très rares musiciens pop dont l'héritage restera à côté de celui des sommets des Beach Boys, des Beatles et des autres. On l'écoute dans Everything Means Nothing to Me, un titre qui remonte à l'année 2000 et à son album Figure 8.
Someone found the future as a statue in a fountain, and attention looking backward in a pool of water. Wishes with a blue songbird on his shoulder that keeps singing over everything. Everything means nothing to me. Everything means nothing to me. Everything means nothing to me. Song and found my picture in the paper. The reflection in the water showed an Iron Man still trying to salute people from a time when he was everything he's supposed to be. Everything means nothing to me. Everything means nothing to me. Everything means nothing to me. Everything means nothing. Everything means nothing to me. Everything means nothing.